Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivet.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons un journaliste, un animateur passé par TF1 où il a à peu près tout fait, sauf animé The Voice ou Koh-Lanta. Il a même animé une émission avec sa compagne à l'époque. Il y a eu iTélé, devenu maintenant CNews, France 5, RTL, Bismart et depuis peu Public Sénat. Alors expérimente-t-il une nouvelle expérience professionnelle ou essaie-t-il de vivre confortablement une vie de sénateur? C'est ce qu'on va lui demander tout de suite. Bonjour Thomas Hugues.
Salut Nicolas.
Bienvenue à vous.
Bonjour Thomas. Damien. J'aime beaucoup la musique du générique. Elle donne une patate dans
la basse.
Ça donne envie de rentrer dans l'émission.
Et c'est Nicolas qui est à la basse.
Et ça donne la
voilà.
La
et Damien au saxo. Voilà. On fait tout ici.
C'est une bonne musique de sénateur d'ailleurs. Parce que vous avez une image un peu ancienne des sénateurs.
Absolument. Bon, on va en parler. Sens public. Hein. C'est le nom de l'émission que vous animez tous les jours sur Public Sénat. C'est à 18h. C'est une émission de débat. Et ma première question, évidemment fondamentale et importante, êtes-vous superstitieux ou pas pour avoir choisi la chaîne numéro 13?
Alors, je suis pas superstitieux au sens où ça peut te manger, mais quand même, je fais ça de temps en temps. Quand je vois un accident sur le bord de la route, par exemple, c'est absurde. Je vois un accident sur le bord de la route, je me dis, mal, fais ça, quoi, on sait jamais.
On sait jamais.
Ça marche sûrement pas, mais on sait jamais.
Et numéro 13, non, vous n'êtes pas posé de question?
Non, je m'arrête pas de vivre.
Vous voyez pas de vivre.
Si, alors, je vais peut-être jouer à l'euro million quand il y a une méga cagnotte pour un vendredi 13, voilà.
Mais, ouais.
Donc, c'est de la superstition. Voilà, low profile, on va dire.
Low profile. Entre nous, on est là, on peut savoir. Est-ce que vous regardiez Public Sénat avant de rejoindre cette chaîne, Thomas?
Je ne regardais pas Public Sénat H24. Et déjà, pour une bonne raison, c'est que je regarde de moins en moins la télévision en flux, pour être honnête.
Donc, sur le linéaire, quoi.
Oui, sur le linéaire, pardon. Donc, j'allais picorer plutôt des extraits d'émissions quand il y avait un événement important. Ou j'allais regarder éventuellement un documentaire, parce que c'est une chaîne qui produit
beaucoup
et qui diffuse beaucoup de documentaires de grande qualité. Donc voilà, ça c'était ma relation à Public Sénat avant d'y arriver il y a presque un an et demi.
Et on va en parler évidemment dans quelques instants. On va poursuivre cette interview avec Thomas Hue. On va parler de sa nouvelle vie sur Public Sénat, de sa carrière, de ses projets, de l'actualité aussi. Ce sera après les news médias de Damien Canivet. Salut Damien,
salut,
ça va?
Salut Nicolas, super.
Les trains sont rétablis depuis Reims.
Ça y est, je peux enfin revenir.
Enfin revenir à Paris. Alors on va démarrer ces infos
médias. C'est vrai qu'on a parlé que de ça justement que l'émission.
Exactement, la gare de l'Est.
Le temps pour la SNCF de réparer.
Bravo à la SNCF, 24 heures, c'était quand même.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Ils ont fait fort, c'est vrai. On va démarrer ces infos médias avec Charles Consigny. Et son avis assez tranché sur les journalistes politiques.
Exactement. Alors, l'avocat participait ce mercredi aux Grandes Gueules sur RMC, émission dans laquelle il officie en tant que chroniqueur, et il s'est effectivement exprimé au sujet du dîner secret au cours duquel Emmanuel Macron a convié à l'Élysée un certain nombre de journalistes influents.
Dîner qui n'est plus du tout secret.
Qui n'est plus vraiment secret, tout le monde en parle, à vrai dire. Charles Consigny a estimé que ces rencontres au palais amenuisaient leur capacité de critique dans la mesure où ils sont, selon lui, flattés d'être reçus par le chef de l'État, l'ancien sniper dont n'est pas coupé, et même aller plus loin en affirmant que la presse française était d'une servilité extraordinaire face au président de la République, contrairement aux médias américains qui seraient, à son avis, beaucoup plus durs avec le pouvoir.
Thomas, vous avez fait des journalistes, vous avez interviewé des politiques aussi. Est-ce que ce dîner à avec des journalistes et le président, c'est quelque chose qui vous choque?
Non. En fait, c'est toujours une ligne difficile. Moi, je n'ai jamais été journaliste politique au sens où on baigne vraiment, où il faut
Vous recevez
les contacts
dans les JT de 20h quand
vous
les
présentez. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quand on est journaliste politique, il faut participer de temps en temps. Alors, à des déjeuners, oui, un dîner, c'est peut-être un peu symboliquement un peu différent, mais là, il y avait plusieurs journalistes, et je trouve que c'est aussi le job d'un journaliste politique d'aller chercher l'info. Bon, la difficulté, c'est où on met le curseur, à partir de quel moment on bascule un peu dans une relation qui se rapproche
de la connivence,
de l'intimité. Ouais. Chacun a sa conscience professionnelle, et moi, je fais confiance à ceux qui y étaient pour savoir où ils mettent le curseur. Et puis, de la part de Charles Consigny, qui navigue entre les deux univers de la politique, aux médias.
On rappelle qu'il s'est présenté aux législatives.
Ben voilà, donc bon.
Sous étiquette LR.
On peut y aller tranquillement sur les leçons, quoi, parce que voilà, il peut choisir aussi, soit il est homme politique, soit il est chroniqueur média.
Mais vous, ça vous est déjà arrivé d'être dragué, entre guillemets, par un président, un ministre, un homme politique, un peu, qui essaie de vous amadouer?
Pas fondamentalement, mais qu'est-ce qui se passe? On est à un déjeuner et on voit bien que y a un homme ou une femme politique qui veut faire passer un message, qui a une réforme à promouvoir, ou qui veut dézinguer un adversaire, parce que c'est aussi ça, un déjeuner avec une personnalité politique, souvent, c'est des infos par ricochet. Donc après, la question, c'est qu'est-ce que je fais de cette information? Déjà, je vais essayer de la vérifier, d'avoir une deuxième ou une troisième source, et puis si elle est avérée, peut-être m'en servir. Voilà.
Damien, on continue ces infos médias. On parle de Didier Bourdon. Grand Didier Bourdon qui s'apprête à tourner dans une série pour TF1.
Effectivement, celui qui nous a fait autrefois hurler de rire avec Les Inconnus va tourner une série pour TF1 qui s'intitulera Le Daron. Alors ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent cette information et qui précisent que le tournage se tiendra le 30 janvier prochain à Bordeaux. Alors ne vous fiez pas au titre, il ne va pas s'agir d'une histoire qui va tourner autour d'un père de famille. Non, Didier Bourdon va se glisser en réalité dans l'impôt de Vincent Daron. C'est un nom de famille du coup.
Ah, c'est un nom de famille, d'accord.
Voilà. Ce sera un avocat assez fantasque qui dirige un cabinet avec son frère, mais lorsque ce frère en question va décéder, eh bien le personnage principal, donc incarné par Didier Bourdon, va se rendre compte que le défunt a cédé ses parts à une avocate en herbe qui est assez redoutable. Alors le casting de cette série est assez alléchant, il sera composé entre autres de Mélanie Bernier, et Mathilde Amé.
Ah, on a hâte de voir ça. En dehors de votre quotidien de journaliste, de l'info, est-ce que vous avez encore un peu de temps pour regarder des séries? Regardez les fictions. Est-ce que vous avez, comme tout le monde, cédé au streaming, aux plateformes Netflix, Amazon, Disney Plus et...
Bien sûr. Ouais. On essaie avec Isabelle, avec ma femme, de faire le total de nos abonnements. Et je pense qu'on a préféré pas aller au bout parce que c'est pas du tout raisonnable. Oui, on adore. Là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Kaléidoscope il y a pas longtemps. Ouais. C'est une série. L'idée de réalisation est intéressante. Voilà, on peut regarder chaque épisode a une couleur. On peut les regarder dans n'importe quel sens, sauf l'épisode blanc qu'il faut garder pour la fin, c'est l'histoire d'un casque qui se passe à New York, d'un braquage. Ouais, super réalisation.
Et ça arrive de binger jusqu'à 3h du mat, comme ça.
J'ai dire sur le jeu d'acteur, c'est un peu moins bien, mais bon. Non, mais en revanche, en un week-end, oui, on peut attaquer. Les séries à 6 ou 8 épisodes, c'est tentant, quoi. Donc, voilà, en un week-end, on peut les dévorer.
On termine, Damien, avec le chiffre du jour, c'est 1,5 aujourd'hui.
Oui, c'est en millions le nombre d'internautes qui ont regardé la courte séquence vidéo publiée ce mardi 25 janvier sur le compte Twitter de Tristan Walex, le présentateur du magazine Complément d'enquête sur France 2. Mmh. Alors dans cette vidéo de 54 secondes, on y aperçoit Cyril Hanouna qui annonce à son public qu'il fera bientôt l'objet d'un reportage dans la célèbre émission d'investigation. Dans cette publication Twitter, Tristan Walex interpelle même directement l'animateur du groupe Canal en lui indiquant qu'il comptait bien sur lui pour qu'il accueille ses caméras dans les coulisses de Touche pas à mon poste. C'est pas certain que cette demande soit, disons, réalisable, mais en tout cas, la demande est faite.
En tout cas, il ferait une future grosse audience pour complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Le style Cyril Hanouna, il est aujourd'hui incontournable. On n'aime pas, on déteste, on adore. Il s'est lancé un peu dans tout, à la fois l'émission de société, le débat politique, on l'a vu pendant la présidentielle. Comment vous le regardez, vous, Cyril Hanouna, de votre œil d'observateur? Je parle aussi bien aux spécialistes médias que vous avez été longtemps, Thomas.
C'est un succès. Il y a un moment où il y a un principe de réalité. On voit où il a démarré, où il est aujourd'hui, l'influence et le poids qu'il a. Donc, c'est un vrai succès. C'est un talent d'animateur qui est incontestable. Le risque, c'est de se perdre un peu quand on fait beaucoup de styles d'émissions différentes et qu'on est à ce point exposé sur une chaîne. Parce que la chaîne repose quand même énormément sur ses épaules.
Entièrement, on va le dire.
Vous l'avez dit à ma place. Mais donc là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque, de temps en temps, de faire une émission qui est moins bien maîtrisée que d'autres, de se réjouir d'audience à un moment où il ne faudrait peut-être pas se réjouir d'audience.
L'affaire Lola qui a eu le lendemain.
Vous avez compris ce que je voulais dire. Ou alors, finalement...
Mais il en fait trop pour vous?
Alors oui, dans ma réponse, je dis qu'il en fait trop, mais ce n'est pas forcément de sa responsabilité. C'est-à-dire que la chaîne décide de l'exposer beaucoup. Plus on est exposé, plus le risque d'erreur peut survenir. Et il est humain, de temps en temps, il en fait.
Et vous pensez que les politiques ont raison d'aller chez lui? Olivier Véran ira sur son plateau, donc face à Baba, le 31 janvier prochain.
Et c'est un débat qui est un peu vieux comme éternel, la télé. Quoi. Je ne vais pas vous citer, on va remonter à Valéry Giscard d'Estaing et son accordéon, mais bon...
En visite chez les Français.
C'est vrai qu'on oublie que ça a toujours existé.
Depuis cette époque-là, si on remonte, on ne va pas faire d'histoire politique, mais la campagne de Kennedy aux États-Unis, donc les années 60, qui est ensuite regardée de très près par un Jean Le Canuet qui met De Gaulle en ballottage. Voilà, il y a eu la compréhension que la télé était un média surpuissant et que les politiques ne pouvaient pas s'en priver. Et donc, il faut aussi aller dans des émissions comme celle-là.
Oui, il faut y aller. Bon, vous, ils ont raison de le
oui,
faire.
Oui, après, ils prennent leur risque, hein, ouais, parce qu'ils vont être bousculés d'une façon
oui,
différente.
Oui, voilà. Différente, ça c'est certain. Ouais. Thomas, je l'ai dit, vous animez une émission quotidienne sur Public Sénat, Sens Public, c'est toujours à 18h, 22h, il y a une rediff, hein, c'est ça qui est juste après. C'est une émission quotidienne de débat, hein, on va dire, classique, avec des invités experts, observateurs, il y a des acteurs du monde politique également qui décryptent, qui confrontent leurs idées sur les sujets d'actu, les grandes questions de société. J'ai une question évidemment qui est tout simple, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un peu comme tout le monde? On en voit, mais partout maintenant, de ces émissions de débat.
Bien
partout.
Sûr. Oui, il y a beaucoup d'émissions de débat. Quand Christopher Baldelli, le patron de Public Sénat, est venu me voir et m'a proposé cette émission, on s'est très vite dit qu'il fallait qu'on choisisse effectivement un positionnement qui à la fois me correspondent, correspondent à ce que veut faire la chaîne, et puis nous différencier un peu de ce que font les autres. Donc
c'est ça la question. On arrive sur votre émission. Oui. Qu'est-ce qui va différencier de C'est dans l'air, de celle de David Pujadas, de Christine Kelly sur CNews, émissions de débat.
Le temps qu'on donne au
c'est
thème,
plus long.
Le temps qu'on donne au thème et des experts. Voilà. Moi, si je devais résumer ça, c'est la promesse est dans le titre. Je le dis souvent à l'antenne. Donner du sens à l'actualité et se mettre au service du public, c'est-à-dire expliquer les mutations, les crises qu'on vit, les mutations de notre société. Pour ça, je suis convaincu que il faut offrir le temps de la complexité aux invités.
Les sujets aussi, vous pouvez vous différencier sur les sujets. J'ai vu de temps en temps, vous prenez des sujets qui ne sont pas forcément dans l'actu du jour.
Alors, on fait des pas de côté, volontairement. C'est-à-dire qu'on a un premier thème qui est un thème d'actualité et un second thème qu'on anticipe. Si je prends ce soir, par exemple, ce jeudi soir, on fait le chômage et les perspectives économiques de la France. Voilà, très bon chiffre du chômage annoncé, etc. Et en deuxième partie, on fait intelligence artificielle. On aurait pu faire ce thème-là au moment où ChatGPT a été annoncé, etc. On s'est dit, on prend un peu de temps, on va aller chercher les bons experts, etc., etc. Et puis, quand on est prêt, on fait le thème. Ça, c'est vraiment la logique de la partie magazine de l'émission. Donc, on choisit un thème. Souvent, quand on est sur une chaîne d'info, on le sait, nos invités, ils y vont aussi, évidemment. Ouais, ils nous disent, chez vous, c'est bien, on a trois quarts d'heure sur un seul thème, alors que la chaîne d'info, on va peut-être y passer 15 minutes, et puis ensuite, on va changer de thème, etc. etc. Bon, on pense que c'est un atout et que ça correspond à une demande du public aussi.
Alors, si on regarde vos audiences à la loupe, on se rend compte que la dynamique est excellente. Entre septembre et décembre 2022, votre case a progressé de 50% par rapport à la saison dernière. Néanmoins,
ça n'est jamais arrivé ailleurs.
Oui, c'est 50%, vrai. Mais c'est ça reste des chiffres assez bas.
Oui, on partait de relativement. Voilà. Mais c'est des beaux chiffres.
Vous aussi autour des 1% de part d'audience. Qu'est-ce qui vous motive à animer ce rendez-vous?
Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais il y a un autre argument qui est venu se rajouter, en fait, et qui explique, je pense, aussi les bonnes audiences, c'est ce qu'on a appelé depuis quelques mois la fatigue informationnelle. Ouais. Vous en avez forcément parlé, c'est-à-dire une partie des téléspectateurs, des citoyens, qui, je pense que c'est lié vraiment à la crise Covid, se disent « mais j'en peux plus, quoi ».
Surabondance,
trop d'infos anxiogènes. Les infos anxiogènes, bon, voilà, c'est une critique qui est faite aux médias depuis si longtemps. Mais bon, là, il y a des gens qui disent je coupe mon téléphone, je ne vais plus sur les alertes d'infos, je coupe ma télévision, je coupe ma radio. Et je pense qu'une émission où on se pose, où on donne le temps aux experts et où on traite quand même de l'actualité, en essayant d'être respectueux et d'être apaisé.
C'est vraiment un objectif. En tout cas.
Il y a pas. Si, ça peut être. Il y a des thèmes qui sont anxiogènes.
Oui, quand vous faites les retraites, forcément, ça crispe la société.
Oui, et puis il y a des thèmes bien pires que ça. Quand on fait l'euthanasie, il y a des thèmes qui sont anxiogènes. On va pas faire, on va pas pouvoir faire autrement. Mais et on va pas se priver de ces thèmes. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les gens s'invectivent pas, c'est apaisé. Et moi, j'ai le sentiment qu'on va récupérer des citoyens qui s'apprêtaient peut-être à éteindre le bouton et qui se disent « Ah ben tiens, il y a encore 2-3 émissions à la télévision où on peut parler d'actualité tranquillement. » Et donc ça nous a confortés, et je pense que ça explique aussi les bons chiffres, dans les choix éditoriaux qu'on avait faits il y a un an et demi.
Alors vous parlez d'actualité, évidemment, même si Public Sénat n'est pas une chaîne d'infos à proprement parler, comme le sont BFM, CNews, LCI ou France Info, ça vous manque un peu l'info pure et dure, Thomas, ou prendre ce recul, après tout, c'est bien. Vous avez travaillé longtemps à CNews, ITélé, puis CNews.
Ouais, j'ai fait ITélé, j'ai fait CNews, j'ai même fait du LCI il y a très très longtemps, quand j'étais mes jeunes années à TF1. Mais donc, la réponse, globalement, elle est non.
Non, ça vous manque pas plus que ça.
Et à la rigueur, c'est, si ça me manquait, c'est un bon médicament, une émission comme celle-là, parce qu'on fait de l'actu quand même. Et puis, il y a le direct.
Ouais.
Et ce compte à rebours d'une journée, moi, j'ai toujours aimé ça. On sait que là, c'est à 18h. À 18h, il peut se passer tout et n'importe quoi dans ma journée. De toute façon, il faut que je sois comme ici,
à la place du présentateur et que je dise bonsoir à tous, bienvenue,
et vous
voici les
votre émission.
Bon, et ben ça c'est le rythme du direct et finalement le rythme de l'actu.
Mais alors pourquoi vous avez décidé de partir de CNews ?
Ah, c'est.
Vous étiez en 2006 et ensuite vous êtes revenu en 2019. Hein,
oui, 2006,
vous animiez la tranche.
Télé,
juste avant votre ex-femme Laurence Ferrari, c'est d'ailleurs, ce qui était rigolo. Pourquoi vous n'êtes pas resté ? C'était une chaîne qui était en train de monter en plus.
Je ne suis pas resté parce que j'y étais pas totalement à l'aise. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont.
Le ton éditorial de la chaîne qui vous plaisait pas.
Pour moi, il y a eu une rupture qui est l'arrivée d'Éric Zemmour. Ouais. L'arrivée d'Éric Zemmour, elle se fait en novembre, de mémoire, novembre-décembre.
Oui, c'était en début de saison, absolument.
Oui, enfin, c'était pas en tout début de saison, c'était novembre-décembre.
Ouais, ouais, ouais. Bon, il
y a une vraie question qui se pose à ce moment-là, c'est il vient comme homme politique, tout le monde sait qu'il est en pré-campagne.
Il n'était pas présenté encore officiellement.
Il vient comme polémiste, sauf qu'il n'est il est pas présenté comme un homme politique, et il a une heure de tribune quotidienne. Bon, je vais être très clair, ça me gêne, j'en ai parlé en interne, j'étais pas le seul à être gêné. Hein. Voilà, certaines ont refusé de présenter l'émission, mais moi, je me suis dit, je ne vais pas partir en milieu de saison, faire un clash, ce n'est pas tellement ma nature, donc je suis resté jusqu'à la fin de la saison. À la fin de la saison, on s'est parlé, je pense que, et eux, et moi, on était assez d'accord pour dire qu'il y avait peut-être une petite erreur de casting, que je ne correspondais pas forcément à ce que cherchait le public de CNews. C'était le temps de partir. Voilà.
Mais malgré tout, est-ce que vous pensez que CNews fait de l'information ? Il y a eu des déclarations notamment de Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, qui indiquait que c'était une chaîne d'opinion avant d'être une chaîne d'info. Quelle est votre position là-dessus ?
Je suis pas loin d'être d'accord avec Marc-Olivier Fogiel. C'est-à-dire que c'est plus une chaîne d'opinion qu'une chaîne d'information. Voilà, c'est ma réponse.
C'est-à-dire que
c'est encore une chaîne d'information.
Pascal Praud, Sonia Mabrouk ou Christine Kelly ou même Laurence Ferrari, elles font pas de l'info pour
vous ? Si, elles font. Il y a de l'info, mais il y a beaucoup d'opinions. J'ai pas dit que c'était qu'une chaîne d'opinion. Donc il y a de l'info, ils s'appuient sur l'info, évidemment, mais c'est devenu de plus en plus une chaîne d'opinion.
Après, c'est autre chose pour vous, ça a sa place aussi ou pas ?
Oui.
Dans le
bien sûr, oui. Bien sûr. Et le succès de la chaîne prouve bien que ça a sa place. Il y a un moment où on publie des journaux, on fait de la télévision pour le public, pas pour se faire plaisir. Donc voilà, il y a
la
public.
La place du journaliste là-dessus, au milieu de l'opinion, au milieu de l'opinion notamment du peuple, des réseaux sociaux peu et de leur dictature, ça a sa place un journaliste là où après c'est juste un relais en fait de la voix populaire.
Mais c'est un vrai défi collectif parce que notre métier il a ses défauts, mais il a ses qualités, c'est qu'on essaye quand même de vérifier les informations, d'équilibrer nos plateaux quand on a des invités, des sensibilités politiques différentes qui s'expriment, faire en sorte que ce ne soit pas une seule voix qui s'exprime. Ça, c'est le travail du journaliste. Sur les réseaux sociaux, on se retrouve, alors là, il y a des gens qui se retrouvent comme citoyens, à partager des contenus en ayant l'impression que c'est du contenu journalistique, alors que le travail en question, de vérification, d'équilibre, n'a pas été fait. Et donc, ça déséquilibre nos démocraties, on le sait bien.
Alors, les réseaux sociaux, c'est plus vos amis. Hein. Juste avant Noël, sur Twitter, c'était votre cadeau d'adieu. Vous avez écrit, sur Twitter, vous étiez très actif. Hein. Vous tweetiez tous les jours, Thomas.
Oui, plusieurs fois. Notamment les extraits de l'émission.
Et vous aviez écrit, ma décision est prise, adieu Twitter, trop de temps perdu, trop de fachos de tous bords, vive les applis, journaux, magazines, à bientôt les amis. Pourquoi cette décision radicale?
Pour passer plus de temps sur l'appli du Figaro.
Ouais.
C'est très gentil. C'est une excellente.
C'est vous qui avez fait monter. C'est les commentaires qui vous gênent.
Ma réponse, c'est pas seulement une vanne, ma réponse. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, Twitter, c'est hyper pratique. T'es abonné à quoi ? T'es abonné essentiellement à des médias.
Ouais. Vous avez un espèce de fil d'info.
C'était mon fil d'info. Très bien. OK, bon, très bien. Et puis après, je sais pas, peut-être que c'est un fantasme de ma part, mais j'ai eu l'impression que, bon, arrivé d'Elon Musk, j'ai observé ça. J'ai eu l'impression que dans l'algorithme, il y avait quelque chose qui avait changé. C'est-à-dire que je voyais arriver des contenus de personnalités auxquelles je n'étais pas abonné et que je n'avais absolument pas envie de lire. Et quand je parle des fachos de tous bords, c'était ça.
C'était
fachos de gauche, des fachos de droite. Bon, moi, je ne suis pas sur Twitter pour perdre mon temps à lire des contenus que je n'ai pas envie de lire. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu fermes ton compte. Fin de l'histoire, et puis tu vas.
Vous ne l'avez pas fermé, hein ?
Parce que je sais, parce que j'ai annoncé.
Il est toujours ouvert, mais c'est arrêté.
Faudrait que j'y retourne pour le fermer.
À cette fameuse date, en décembre.
Bon, j'ai pas été au bout de l'histoire, vous avez raison. C'est mon côté dinosaure, ça.
Vous dites, on ne sait jamais, peut-être y aura-t-il un.
Non, c'est mon côté dinosaure, je peux aller au bout du truc. voilà. Et donc, effectivement, j'ai été reprendre des applis de médias, et au lieu de faire tant de minutes sur Twitter, je vais de l'un à l'autre.
Et vous receviez des insultes sur Twitter? On sait que beaucoup de journalistes qui sont exposés médiatiquement reçoivent des invectives
sur ces
réseaux.
Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas parce que j'ai été victime d'une campagne. Ouais. Non, pas du tout. En plus, moi, dans mon utilisation de Twitter, j'étais pas polémiste. Donc, vous voyez, parce que je cherchais pas le clash, la bagarre. Ouais. C'est pas ma nature. Donc, je rentrais pas dans ces histoires-là, quoi.
On parlait de TF1 tout à l'heure, que vous avez quitté en 2006. Je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'était passé, si vous aviez démissionné, ce que TF1 avait annoncé. Vous aviez dit que non, vous aviez été viré. Comment ça s'était passé?
Oh là là, tout, on va pas raconter tout l'histoire.
Mais 14 ans après, on peut le dire.
Ah bah, 14 ans après.
Ça s'est mal fini, en tout cas.
C'est sûr, ouais. ça s'est mal fini.
C'est certain.
Mais non, en fait, j'ai acté, je n'ai pas démissionné, le terme...
Oui, avait été mal employé.
Oui, sauf que je l'ai retrouvé dans une dépêche AFP.
Effectivement.
Ça peut arriver que des confrères se fassent un peu intoxiquer, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, j'ai jamais démissionné, mais j'ai acté le fait que mon poste, mon activité était vidée de sens au fur et à mesure. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que j'avais tant de responsabilités, et puis petit à petit, on m'en virait une autre, et puis le titre qu'on m'avait donné, c'était une coquille creuse. Voilà.
Ouais,
donc, je vais pas tout raconter, mais ouais. Ça a été un processus assez long, une décision difficile à prendre. Puis après, voilà, tu passes dans le monde merveilleux des contrats de saison.
Ouais.
Voilà, c'est beaucoup moins sécurisant. Hein, chaque mois d'avril-mai, tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire la saison prochaine? Mais tu gagnes aussi un peu en liberté, évidemment. Ouais. Bon, voilà.
Alors, on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans parler de PPDA, parce que vous avez été son joker pendant 5 ans. C'était au début des années 2000. Mm-hmm. Vous connaissez toutes les accusations qui le visent aujourd'hui, d'agression sexuelle et de viol. Est-ce que vous soupçonniez quelque chose lorsque vous étiez à TF1?
Je vais dire deux choses. La première, c'est que je crois, et sans l'ombre d'un doute, ces femmes qui témoignent.
Oui.
Je connais certaines d'entre elles.
Oui, c'est important de le dire aussi.
Voilà, je connais certaines d'entre elles. J'ai travaillé avec certaines d'entre elles et je les crois, sans l'ombre d'un doute. Après, l'honnêteté m'oblige à dire que quand j'étais à TF1, et j'y ai été pendant longtemps, plus de 15 ans, jamais personne n'est venu me voir en me disant « il se passe des choses glauques dans le bureau de PPDA ». Voilà. PPDA avait la réputation d'être un séducteur.
Un donjon, bien sûr.
Il y a beaucoup de mots.
Ce que disent beaucoup de gens de TF1, mais ils ne savaient pas qu'ils forçaient. Effectivement,
il y a beaucoup de mots beaucoup plus vulgaires pour dire comment ils se comportaient. Mais voilà ce qui circulait. Et moi, je ne peux pas dire autre chose. Le plus important, c'est la première partie de la phrase, mais la deuxième partie de la phrase, c'est la réalité.
Okay. Est-ce que ce déballage public, pour vous, il est important, utile, indispensable ou peut-être trop médiatique à votre goût, Thomas?
Il est majeur. Enfin,
c'est important.
Oui. Ouais. C'est des siècles de silence derrière. Bon, voilà, il y a même pas une décennie de paroles, évidemment, avec parfois des dérapages, des emballements médiatiques, mais cette parole, elle est nécessaire, elle est indispensable.
Merci en tout cas de l'avoir précisé. Vous restez avec nous, c'est notre dernière rubrique pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qu'on dit en général quand il y a un mariage. Mais c'est aussi un peu un bilan, le bon, le moins bon. Si je vous demande aujourd'hui, Thomas, le meilleur souvenir de votre carrière de journaliste.
Le meilleur souvenir.
Un souvenir comme ça qui vous vient.
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors le dernier, il est lié à Public Sénat, c'est les soirées électorales la saison dernière. Avec Brigitte Boucher, on était en co-diffusion avec LCP, avec la chaîne de l'Assemblée, et on s'est éclaté. Quoi.
Ouais,
c'est toujours un exercice. J'en avais fait, mais pas à la présentation. Tu prends l'antenne à 20h et tu dis voilà le résultat. Bon, c'est quand même un kiff journalistique, il faut le dire. Et donc avec nos moyens, on a fait de belles soirées et c'est un très bon souvenir. Après, il y en a qui remontent beaucoup plus loin. C'est des souvenirs de news. Mm. C'est des souvenirs où c'est ce qu'on racontait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as ton compte à rebours, tu te prépares pour une émission, et puis 5 minutes avant l'émission, il y a un événement qui fait que tu prends les fiches, tu les jettes à la poubelle et tu plonges dans le grand bain. Ouais. Donc ça, c'est génial. Ça.
Et le pire souvenir maintenant?
Le pire souvenir, alors il y en a un qui est anecdotique, que j'ai déjà raconté, qui est une interview de Richard Gere à l'époque à TF1 en duplex. Il devait être 9h du mat pour lui, il arrive avec son mug de café. Non, parce que ce n'était pas en direct.
Ah oui, d'accord.
Donc on le mettait en boîte et pour moi, il était 15h. Quoi.
Ouais,
donc on le mettait en boîte pour diffusion. Et je sens le gars pas bien réveillé, un peu renfrogné. Je commence l'interview, c'est de la promo, tranquille. Et puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui pose une question perso sur sa relation avec une...
C'est Nico Ford,
c'était...
Ah non, c'était une autre, après.
Avec qui il avait tourné dans le film. Donc ce n'était pas totalement absurde de
poser
la question.
C'est pas si personnel que ça.
Et alors là, on avait l'huître.
se refermer et j'ai eu des yes et des no après.
Oh non.
Et là, tu sens les rames. Donc voilà, il y a eu ça. Et sinon, allez.
Est-ce qu'il y a une honte, un moment de solitude
non,
à l'antenne?
Non, il n'y a pas une honte, un moment de solitude. Il y a un moment de. Si, c'est un moment de solitude. En fait, quand je me fais virer, pas de TF1, quand je me fais virer 10 télé oui. après deux saisons, et là, j'ai pas de boulot. Aïe. Pour la première fois de ma vie professionnelle, j'ai
avant
pas de boulot.
Que vous arriviez à France 5.
Avant que j'arrive avant à France 5, 5, j'ai pas de boulot. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 24 heures. En plus, j'étais en plein divorce, bon, ce n'était pas une période super sympa. Et je me souviens, un tout petit appart, là, mon frangin me prêtait, je rentre chez moi, je me dis, merde, tu n'as pas de boulot. Là
c'est dur. Ouais,
et le lendemain, mon téléphone a sonné, grâce d'ailleurs à un ancien du Figaro Télé, Patrice Gascoigne, qui avait fait le lien avec France 5. Ouais. Il cherchait un animateur pour Média le magazine. Donc, l'angoisse n'a pas duré trop longtemps.
Effectivement, vous avez vite rebondi.
Damien, une petite dernière pour la route.
Ouais, allez, une petite dernière. Votre meilleur ami dans le métier.
Mon meilleur ami dans le métier, c'est compliqué parce que.
Votre pire ennemi alors.
Non mais non, parce que tu te fâches toujours. Eh ben, je vais dire Éric Jean-Jean.
Éric Jean-Jean,
qui est socialiste RTL, musique,
qui est une belle personne. Ouais. Voilà, tout simplement, je l'aime d'amour.
Eh ben, c'est beau.
Merci Thomas Hugues, c'est dit. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours à 18h, c'est sur Public Sénat. Merci de votre fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.